L'encyclopédie, article Théocratie. Théocratie, c'est ainsi que l'on nomme un gouvernement dans lequel une nation est soumise immédiatement à Dieu, qui exerce sa souveraineté sur elle et lui fait connaître ses volontés par l'organe des prophètes et des ministres à qui lui plaît de se manifester. La nation des Hébreux nous fournit le seul exemple d'une vraie théocratie. Ce peuple dont Dieu avait fait son héritage gémissait depuis longtemps sous la tyrannie des Égyptiens lorsque l'Éternel, se souvenant de ses promesses, résolut de briser les liens et de le mettre en possession de la terre qu'il avait destinée. Il suscita pour sa délivrance un prophète à qui il communiqua ses volontés, ce fut Moïse. Dieu le choisit pour être le libérateur de son peuple et pour lui prescrire des lois dont lui-même était l'auteur. Moïse ne fut que l'organe et l'interprète des volontés du ciel. Il était le ministre de Dieu qui s'était réservé la souveraineté sur les Israélites. Ce prophète leur prescrivit en son nom le culte qu'ils devaient suivre et les lois qu'ils devaient observer. Après Moïse, le peuple hébreu fut gouverné par des juges que Dieu lui permit de choisir. La théocratie ne cessa point pour cela. Les juges étaient les arbitres des différends et les généraux des armées. Assistés par un sénat de 70 vieillards, il ne leur était point permis ni de faire de nouvelles lois, ni de changer celles que Dieu avait prescrites dans les circonstances extraordinaires. On est obligé de consulter le grand prêtre et les prophètes pour savoir les volontés du ciel. Ainsi, on réglait sa conduite d'après les inspirations immédiates de la divinité. Cette théocratie dura jusqu'au temps de Samuel. Alors les Israélites, par une ingratitude inouïe, se lassèrent d'être gouvernés par les ordres de Dieu même. Ils voulurent l'exemple des nations idolâtres, avec un roi qui les commandait et qui fit respecter leurs armes. Le prophète Samuel, consulté sur ce changement, s'adresse au Seigneur qui lui répond « J'ai entendu le peuple, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi-même. » Alors l'Éternel, dans sa colère, consent à lui donner un roi. Mais ce n'est point sans ordonner à son prophète d'annoncer à ses ingrats les inconvénients de cette royauté qu'ils préféreront à la théocratie. « Voici, leur dit Samuel, quel sera le droit du roi qui régnera sur vous ? Il prendra vos fils et se fera porter sur leurs épaules. Il traversera les villes en triomphe. Et parmi vos enfants, les uns marcheront à pied devant lui et les autres le suivront comme de vils esclaves. Il les fera entrer par force dans ses armées. Il les fera servir à labourer ses terres et à couper ses moissons. Il choisira parmi eux les artisans de son luxe et de sa pompe. Il destinera vos filles à des services vils et bas. Il donnera vos meilleurs héritages à ses favoris et à ses serviteurs pour enrichir ses courtisanes. Il prendra la dixième de vos revenus. Enfin, vous serez ses esclaves. Il vous sera inutile d'implorer sa clémence parce que Dieu ne vous écoutera pas, d'autant que vous êtes les ouvriers de votre malheur. » C'est ainsi que le prophète exposa aux Israélites les droits qui s'arrogeraient leurs droits. Elles sont les menaces que Dieu fait à son peuple lorsqu'il voulut se soustraire à son pouvoir pour se soumettre à celui d'un homme. Cependant, la flatterie s'est servie des menaces même du prophète pour en faire des titres aux despotes. Des hommes pervers et corrompus ont prétendu que par ces mots, l'être suprême approuvait la tyrannie et donnait sa sanction à l'abus du pouvoir. Et quoique Dieu eût fait connaître aussi aux Hébreux les dangers du pouvoir qu'ils allaient conférer à l'un d'entre eux, ils persisteraient dans leurs demandes. « Nous serons, dirent-ils, comme les autres nations, nous voulons un roi qui nous juge et qui marche à notre tête contre nos ennemis. » Samuel rencontra Dieu de l'obstination de son peuple. L'Éternel, irrité, ne lui répond que par ces mots. « Donne-leur un roi !» Le prophète obéit en ordonnant Saül. Ainsi finit la théocratie. Quoique les Israélites soient le peuple seul qui nous fournisse l'exemple d'une vraie théocratie, On a vu cependant des imposteurs qui, sans avoir la mission de Moïse, ont établi sur des peuples ignorants et séduits un empire qui leur persuadait être celui de la divinité. Ainsi, chez les Arabes, Mahomet s'est rendu le prophète, le législateur, le pontife et le souverain d'une nation grossière et subjuguée. L'Alcoran renferme à la fois les dogmes, la morale et les lois civiles des musulmans. On sait que Mahomet prétendait avoir reçu ses lois de la bouche de Dieu même. Cette prétendue théocratie dura pendant plusieurs siècles sous les califes qui furent les souverains et les pontifes des Arabes. Et chez les Japonais, la puissance du dari ou de l'empereur ecclésiastique ressemblait à une théocratie avant le Kubo ou empereur séculier eut mis des bornes à son autorité. On trouve des vestiges d'un empire pareil chez les anciens Gaulois. Les druides exerçaient leurs fonctions de prêtres et de juges les peuples. Chez les Éthiopiens et les Égyptiens, les prêtres ordonnaient aux rois de se donner la mort lorsqu'ils avaient déplu à la divinité. En un mot, il n'est guère de pays où le sacerdoce n'ait fait des efforts pour établir son autorité sur les âmes et sur les corps des hommes. Quoique Jésus-Christ ait déclaré que son royaume n'est pas de ce monde, dans des siècles d'ignorance, on a vu les pontifes chrétiens s'efforcer d'établir leur puissance sur les ruines de celles des rois. Ils prétendaient disposer des couronnes avec une autorité qui n'appartient qu'au souverain de l'univers. Telles ont été les prétentions et les maximes des Grégoire VII, des Boniface VIII et de tant d'autres pontifes romains, qui, profitant de l'imbécile superstitieux des peuples, les ont formés, armés contre leur souverain naturel, et ont couvert l'Europe de carnage et d'horreur. C'est sur les cadavres sanglants de plusieurs millions de chrétiens que les représentants de dieux de paix ont élevé l'édifice d'une puissance chimérique dont les hommes ont été longtemps les tristes jouets et les malheureuses victimes. C'est à la sagesse des souverains à réprimer ces prétentions ambitieuses et idéales et à contenir tous les membres de la société dans les justes bornes que prescrivent la raison et la tranquillité des États. Un auteur moderne a regardé la théocratie comme le premier des gouvernements que toutes les nations aient adopté. Il prétend qu'à l'exemple de l'univers qui est gouverné par un seul Dieu, les hommes réunis en société ne voulurent d'autre monarque que l'être suprême. Et comme l'homme n'avait que des idées imparfaites et humaines de ce monarque céleste, on lui éleva un palais, un temple, un sanctuaire et un trône. On lui donna des officiers et des ministres. On ne tarda point à représenter le roi invisible de la société par des emblèmes et des symboles qui indiquaient quelques-unes de ses attitudes, quelques-uns de ses attributs. Et peu à peu, l'on oublia ce que le symbole désignait, et l'on rendit à ce symbole ce qui n'était dû qu'à la divinité qu'il représentait. Ce fut là l'origine de l'idolâtrie à laquelle les prêtres, faute d'instruire les peuples, ou par intérêt, donnèrent même lieu. Ces prêtres n'eurent point de peine à gouverner les hommes au nom des idoles muettes et inanimées dont ils étaient les ministres. Une affreuse superstition couvrit la face de la terre sous ce gouvernement sacerdotal. Il multiplia à l'infini les sacrifices, les offrandes, en un mot toutes les pratiques utiles aux ministres visibles de la divinité cachée. Les prêtres, enorgueillis de leur pouvoir, en abusèrent étrangement. Et ce fut leur incontinence qui, suivant l'auteur, donna naissance à cette race d'hommes qui prétendait descendre des dieux et qui sont connus dans la mythologie sous le nom de demi-dieux. Les hommes, fatigués du joug insupportable des ministres de la théocratie, voulurent avoir au milieu d'eux des symboles vivants de la divinité. Ils choisirent donc des rois qui furent pour eux les représentants du monarque invisible. Et bientôt, on leur rendit les mêmes honneurs qu'on avait rendus avant eux au symbole de la théocratie. Ils furent traités en dieux, ils traitent en esclaves les hommes qui, croyant être toujours soumis à l'être suprême, oublièrent de restreindre par des lois salutaires le pouvoir dont pouvaient abuser ces faibles images. C'est là, suivant l'auteur, la vraie source du despotisme, c'est-à-dire de ce gouvernement arbitraire et tyrannique sous lequel gémissent encore aujourd'hui les peuples de l'Asie, sans oser réclamer les droits de la nature et de la raison qui veulent que l'homme soit gouverné pour son bonheur.